Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Nous pouvons affirmer que les trois piliers de la vie chrétienne sont la foi, l'amour et l'espérance. Dans la série que nous poursuivons aujourd'hui, nous réfléchissons au sens de ces trois qualités en nous penchant sur la première lettre de l'apôtre Paul écrite à l'église de Thessalonique. D'abord, Magali va lire les trois premiers versets de cette lettre.
De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tout en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père.
Nous poursuivons cette lecture biblique avec un autre texte de la première lettre aux Thessaloniciens. Au chapitre 4, Magali va lire les versets 9 à 12.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne.
Merci Magali. Le moment est venu d'accueillir Diego sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Il est de retour parmi nous. Il va nous faire part de ses réflexions concernant ces versets lus. Diego, bonjour.
Bonjour Yann, bonjour à tous. Au début de sa lettre, l'apôtre Paul exprime sa reconnaissance pour l'amour des croyants de l'église de Thessalonique. La dernière fois, nous avons discuté du mot agapé, un mot grec que nous traduisons par amour en français. Cet amour se traduit par le désir d'aider son prochain dans le besoin, de façon appropriée, de venir à son secours lorsqu'il se trouve dans la détresse. Cet amour, c'est la compassion en action. C'est un amour désintéressé, et souvent il s'agit d'un amour coûteux. Jésus-Christ en est l'exemple suprême. Il a consacré son temps à servir les femmes et les hommes, et il a donné sa vie pour eux en mourant sur la croix, afin d'obtenir le pardon de nos péchés. L'apôtre Paul reprend le thème de l'amour au chapitre 4 de sa lettre aux Thessaloniciens. Il a déjà exprimé sa reconnaissance pour l'amour de ses croyants, et pourtant, il les encourage à faire encore plus de progrès. C'est un rappel que nous ne devons jamais nous contenter du chemin parcouru dans la foi ou dans l'amour, mais qu'il faut toujours aller de l'avant. La vie spirituelle est comme un arbre qui pousse, il faut toujours viser la croissance. En matière d'amour, nous ne pouvons jamais conclure « voilà, j'y suis arrivé, je sais aimer ». Non, nous avons toujours des progrès à faire dans ce domaine. Nous avons à apprendre plus, nous devons grandir encore, aimer davantage. Il ne faut pas oublier que les chrétiens de Thessalonique connaissaient depuis relativement peu le Seigneur Jésus. Paul était très encouragé par leurs premiers pas dans la vie chrétienne et il leur exprime de ce fait sa reconnaissance. Cependant, tout comme il reste à un petit enfant qui vient de faire ses premiers pas dans la vie, un long chemin à parcourir avant de devenir adulte, mature, les chrétiens à Thessalonique devaient encore persévérer dans la foi et dans l'amour pour atteindre une véritable maturité spirituelle. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Que nous croyons au Seigneur Jésus depuis peu ou depuis des années, nous devons aspirer à croître dans l'amour. Même l'apôtre Paul, que nous estimons être un croyant exemplaire, a écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. » Pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul exprime qu'il n'est pas parfait, mais qu'il aspire à mieux faire, à aller de l'avant, à atteindre le but. En ceci, il est l'exemple à suivre en matière de thème qui nous préoccupe, qui est l'amour, ou des thèmes qui touchent les autres domaines de la vie chrétienne.
Merci Diego pour cet appel à toujours poursuivre la croissance spirituelle. Pour revenir au thème de l'amour, Paul écrit « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel ». Parle-t-il ici de l'amour agapé ?
Non. Dans la langue grecque, il utilise cette fois-ci le mot « Philadelphia », qui est traduit en français par « l'amour fraternel ».
D'accord, mais en quoi l'amour fraternel ou l'amour Philadelphia est-il différent de l'amour agapé ?
Je ne pense pas qu'une différence énorme existe entre ces deux termes. Ces deux mots se complètent. Je vais essayer d'expliquer cela. Dans la langue grecque, le mot Philadelphia se traduit littéralement par l'affection pour les frères. Et habituellement, ce mot désigne l'amour qui lie les membres d'une même famille, c'est-à-dire l'amour entre parents et enfants, entre frères et sœurs aussi, et envers la famille plus élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins.
Ainsi, si l'apôtre Paul, en parlant de l'Église, emploie le terme « amour fraternel », c'est parce qu'il exprime que l'Église doit ressembler à une grande famille.
C'est exact, Yann. Et c'est de là que vient l'habitude d'appeler les chrétiens que nous côtoyons nos frères, nos sœurs. Et n'oublions pas non plus que Jésus nous a enseigné que nous pouvons nous adresser à Dieu en l'appelant notre Père. La vie chrétienne est ainsi caractérisée par la vie de famille au sein de l'Église.
Nous savons que certaines familles fonctionnent bien, tandis que d'autres non. Certaines familles, en effet, procurent de l'amour, alors que d'autres sombrent dans la négligence et la maltraitance. Et dans ces familles-là, l'amour est absent.
Et malheureusement, nous pouvons affirmer la même chose des églises. Certaines, comme celle de Thessalonique, vivent l'amour fraternel, alors que d'autres sont connues pour leur manque d'amour. C'est pour cela qu'il est important de retenir cet enseignement de l'apôtre Paul. Cet encouragement à toujours mieux aimer nos frères, nos sœurs dans l'Église.
Et nous devons donc aspirer à mieux vivre cet amour fraternel ou l'amour familial. Mais à quoi ressemble-t-il ? Comment le définir ?
D'abord, il faut reconnaître que les liens spirituels qui nous unissent les uns aux autres au sein d'une Église sont tout aussi forts que les liens qui unissent les membres d'une même famille. Selon les desseins de Dieu, le chrétien est appelé à vivre une relation vraie et emplie d'amour envers ses sœurs et frères dans l'Église. Nous sommes créés pour vivre en communauté et non pas pour éviter notre prochain ou rester isolés de tout contact humain. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas tout simplement nous rendre au culte le dimanche et puis repartir tout de suite sans parler à personne. Non. Participer à une vie d'église, c'est favoriser et encourager les relations fraternelles et la vie spirituelle, qui sont aussi fortes que les relations familiales. Donc, la première étape consiste à reconnaître qu'au sein d'une église, notre foi et la présence de l'Esprit nous unissent les uns aux autres. Ceci est à la fois un privilège et une joie, mais aussi une grande responsabilité. Ensuite, nous pouvons nous demander comment vivre l'amour fraternel au quotidien.
Qu'allez-vous répondre ?
L'amour fraternel, c'est exprimer une réelle affection pour les sœurs, les frères de l'Église. Il nous pousse à veiller les uns sur les autres, tout comme au sein d'une famille aimante, on veille sur les proches. L'amour fraternel s'exprime par la pratique de l'hospitalité, car il est normal que les membres d'une église aiment passer du temps ensemble, tout comme les membres d'une famille passent des moments de détente ensemble. L'amour fraternel s'exprime par la pratique de la solidarité. Cela signifie que si une sœur ou un frère dans l'église est en lutte avec un problème, on réfléchit ensemble pour trouver la meilleure solution. Si une sœur ou un frère passe par des difficultés, on va chercher à l'aider de façon appropriée et efficace. Dans une famille heureuse, les membres qui le peuvent soutiennent ceux qui traversent des épreuves. Et cela doit également se voir dans l'Église.
Merci Diego. L'apôtre Paul nous encourage tous à progresser dans l'amour fraternel et à veiller réellement les uns sur les autres. Cependant, je constate qu'à la fin des versets lus en début d'émission, Paul change un peu de ton. Il écrit « Nous vous encourageons, frères et sœurs, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. » Comment comprendre ces instructions ? Et quel est leur rapport avec l'amour fraternel ?
Oui, il est malheureusement vrai que lorsque des personnes sont connues pour leur amour, leur compassion, leur générosité, certains peuvent abuser de leur bonté et chercher à en profiter. Selon les commentateurs bibliques, il est possible que certaines personnes dans l'église de Thessalonique aient tout simplement arrêté de travailler, pensant qu'elles pouvaient dépendre de la générosité des autres pour vivre. Selon Paul, une telle attitude est condamnable. L'apôtre Paul rappelle donc que nous devons chacun, autant que cela nous est possible, assumer nos propres responsabilités et travailler pour pourvoir à nos besoins personnels et à ceux de nos proches. Bien sûr, nous serons toujours confrontés aux nécessiteux, aux personnes qui ne peuvent ni trouver du travail ou qui sont dans l'impossibilité de travailler pour des raisons graves. Alors dans ces cas-là, et dans la mesure du possible, l'Église peut exprimer sa solidarité et trouver le meilleur moyen d'aider de telles personnes. Paul rappelle simplement qu'elle doit être notre responsabilité. Et il s'adresse aux personnes paresseuses et manipulatrices qui peuvent abuser de la bonté des chrétiens. Paul condamne toute mentalité de dépendance où l'on attend trop des autres sans s'investir soi-même dans la recherche de solutions à ses problèmes. En fait, il faut pratiquer l'amour avec sagesse et discernement. Notre amour doit aider chacun à assumer ses responsabilités. Et nous devons veiller à ce que la façon dont nous aimons les autres ne crée pas une mentalité de dépendance. Pour citer un dicton bien connu, « Vaut-il mieux donner à un homme pauvre un poisson à manger tous les jours ? Ou vaut-il mieux lui acheter une canne à pêche et lui montrer comment s'en servir ?» Dans le premier cas, on entretient une mentalité de dépendance, tandis que dans le deuxième, on l'aide à assumer ses responsabilités et à retrouver sa dignité.
Merci Diego pour ces réflexions intéressantes et importantes. Paul nous incite à progresser dans l'amour fraternel, mais il nous invite aussi à acquérir de la sagesse, afin qu'en toute situation et en présence de chaque personne, nous réfléchissions bien afin de discerner comment aimer notre prochain. Confrontés à des situations complexes, nous avons besoin du Seigneur pour nous aider à trouver les bonnes réponses, les bonnes attitudes à adopter.
Vous avez raison, Yann. Et c'est pour cela que je voudrais terminer notre discussion avec une prière que nous trouvons dans la lettre de l'apôtre aux Philippiens, au chapitre 1 et au verset 9. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement.
Merci. Et lors de notre prochaine émission Espérance aujourd'hui, nous parlerons de l'espérance inébranlable des croyants de Thessalonique. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.